Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin ?
Ce matin, je vous parle de Camélia Jordana qui ne partira pas en vacances avec Christophe Castaner, de Camille Combal qui quitte la radio, des radios privées qui demandent à ce que la pub quitte le service public, du Sénat qui vole au secours de la presse écrite et d'un nouveau venu dans l'univers des podcasts.
Mais on commence par les audiences évidemment. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télévision ?
Un match serré hier soir, mais c'était TF1 et son film musclé White House Down qui l'emporte avec 4 741 000 téléspectateurs. C'est 300 000 de mieux que Le Brio sur France 2. Le film avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana a été regardé par 4 436 000 personnes. Troisième position sur le podium pour notre cher commissaire Dupin. Il y avait près de 3 millions et demi de téléspectateurs devant France 3. Et à noter le bon score d'Arte avec un hommage à Michel Piccoli. Le film Les choses de la vie a été regardé par 1,5 million de personnes.
Et puis les audiences, Cyril, de vendredi et de samedi soir.
Business as usual, vendredi, Koh-Lanta fait ses 6,5 millions de téléspectateurs. À force de le dire chaque semaine, on pourrait croire que ce score est devenu banal, mais ne vous y trompez pas. La régularité de Koh-Lanta à ce niveau est exceptionnelle, a fortiori pour une émission dont la première diffusion remonte à 2001. Quant à samedi, là aussi, comme les semaines précédentes, c'est France 3 qui l'emporte. Près de 5 300 000 personnes ont regardé une rediffusion du téléfilm Mémoire de sang. C'est quasiment 2 millions de plus que lors de son premier passage sur France 3 en septembre 2018. Samedi, c'était aussi le retour d'On n'est pas couché. Et bien malheureusement pour Laurent Ruquier, les téléspectateurs n'ont pas semblé avoir été en manque. Il y avait moins de 630 000 personnes devant France 2. C'est 300 000 de moins que lors du précédent numéro de l'émission diffusé le 14 mars dernier. On n'est pas couché, on en reparle dans une seconde.
Culture Média.
Effectivement Cyril, une seconde, on commence donc ce journal des médias par ce qui s'est passé samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2.
Ça commence par une passe d'armes sur le plateau entre la chanteuse et comédienne Camélia Jordana et l'écrivain Philippe Besson, on écoute.
Je veux dire, ils font ce qu'on leur demande et par ailleurs, ils sont extrêmement mal payés eux aussi pour faire ce qu'on leur demande. Ils obéissent aux ordres, donc on peut contester les ordres. Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper les manifestants, ça oui.
Mais les flics, moi, je ne parle pas des manifestants, mais je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau.
Couleur de peau, je suis d'accord.
C'est un fait.
Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie.
Ils sont censés, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie.
Je l'entends.
Aujourd'hui,
je l'entends.
J'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France.
Oui.
Vraiment.
Eux aussi sont parfois attaqués, quand même. Vous êtes d'accord, les flics?
Il y a quand même des flics. En fait, pardon, mais c'est comme me parler de féminisme et de me dire oui, mais quand même, il y a des gonzesses qui. En fait, non. Le combat est tel qu'on ne peut pas du coup voir l'espèce de virgule qui serait l'arbre qui cacherait la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question, en fait. Je suis désolée.
On l'entend, Camélia Jordana s'en prend à la police et l'accuse de délit de faciès. Alors forcément, ça n'a pas plu à celui qu'on surnomme le premier flic de France, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner a répondu à Camélia Jordana sur Twitter. Selon lui, la chanteuse tient des propos mensongers et honteux qui alimentent la haine et la violence. Et toujours, selon le ministre, cela appelle à une condamnation sans réserve. Quelques heures plus tard, Camélia Jordana répond à son tour à Christophe Castaner. Elle assure vouloir alimenter un dialogue avec les dirigeants politiques pour faire avancer les choses. Mais à ses yeux, le ministre nie alors qu'il voit très bien ce qui se passe. Et la chanteuse de conclure, votre devoir est de nous protéger. Protégez-nous, le tout accompagné d'une vidéo montrant des violences policières durant les semaines de confinement. Dans un autre message, Camélia Jordana assure qu'elle ne reviendra pas sur ce qui s'est passé samedi soir, mais qu'elle est disposée à en débattre sur un plateau avec le ministre de l'Intérieur.
Tout à fait autre chose, une page qui se tourne chez nos voisins de Virgin Radio.
Camille Combal a décidé d'arrêter sa matinale Virgin Tonic. Il l'annonce ce matin dans Le Parisien. Après 6 saisons à la tête de l'émission, l'animateur a choisi de ne pas continuer Virgin et il assure n'avoir aucun projet côté radio. La rentrée de Camille Combal sera donc entièrement consacrée à TF1 avec une nouvelle saison de Danse avec les Stars et de Mask Singer. Et il va reprendre très bientôt le tournage d'un nouveau divertissement Plan C, interrompu pour cause de coronavirus.
Et puis Cyril, on reste dans le secteur de la radio. Les radios privées demandent au gouvernement de suspendre la publicité sur le service public.
180 représentants de radios privées ont écrit à Édouard Philippe pour lui demander un sérieux coup de main. Elle propose un moratoire de 1 ou 2 ans sur la publicité que diffuse Radio France. Les signataires soulignent dans leur courrier que leur secteur est le grand oublié du plan d'urgence du gouvernement en faveur de la culture. Les radios d'ailleurs disaient déjà la même chose concernant la loi de réforme de l'audiovisuel. Dans cette lettre au Premier ministre, rendue publique par le journal du dimanche hier, les radios privées estiment que la chute brutale de leurs revenus publicitaires leur impose de prendre des mesures de restriction budgétaire et pourrait rapidement menacer la viabilité, leur viabilité. Toujours dans le JDD, le ministre de la Culture leur répond, et ça va pas leur faire plaisir, selon Franck Riester, aucune extension ni diminution de la publicité sur les antennes du service public n'est envisagée.
Crise sanitaire toujours, Cyril, le Sénat se penche sur l'avenir de la presse écrite.
Comment permettre à la presse écrite de passer le cap de la pandémie tout en confortant enfin son modèle économique et son indépendance? Voilà qui ferait un excellent sujet de mémoire pour des étudiants en école de journalisme. Et il y a de quoi faire. Avec la crise sanitaire, la diffusion des journaux a baissé en moyenne de 20% et les revenus publicitaires ont chuté de près de 80%. Il est donc urgent de trouver des solutions. Les sénateurs ont décidé de s'emparer du problème et de fournir leurs propres préconisations. Nous avons joint le sénateur Michel Laugier qui s'occupe du groupe presse au sein de la commission culture du Sénat et nous détaille leurs propositions.
Première proposition, c'est dans le cadre du prochain collectif budgétaire, c'est qu'il y ait un fonds de soutien spécifique pour justement aider et que les outils qui existent soient aussi développés. Parce qu'il y a des fonds déjà qui sont mis à disposition, mais il faut, je crois, les mobiliser le plus rapidement possible. Deuxième chose tout à fait simple, c'est tout simplement de décaler le remboursement à la poste des frais de affranchissement. Donc de le décaler de un mois, ce qui ferait un peu de trésorerie aussi pour les éditeurs. Ensuite, organiser une sortie progressive du chômage partiel afin qu'on puisse tenir compte aussi du décalage qu'il y aura avec la reprise de l'activité. Et puis, une chose aussi tout à fait simple, mais qui ferait du bien, c'est de concentrer sur la presse les campagnes de communication institutionnelle du gouvernement, de préférence bien sûr aux plateformes numériques.
Le Sénat qui soutient également la mesure d'un crédit d'impôt en faveur des annonceurs, une idée déjà demandée par le secteur de l'audiovisuel.
On va peut-être terminer le journal, non ?
Oui, ben je sais pas.
Alors on termine avec un podcast Europe 1 Studio qui a commencé, qui est en ligne depuis ce matin. Mr. President, c'est le titre de ce nouveau podcast que nous propose Olivier Duhamel, qui a décidé de se pencher sur les grandes et petites histoires de l'élection présidentielle américaine. Évidemment, la période n'y est pas pour rien dans le lancement de cette série de 12 numéros de Mr. President. Dans un peu plus de 5 mois, les Américains se rendront aux urnes pour départager Donald Trump, l'actuel président, et Joe Biden, le très probable candidat démocrate. Nous avons profité du lancement de ce podcast pour demander à Olivier Duhamel de nous donner les enjeux de l'élection à venir.
L'histoire des présidentielles américaines est tout à fait passionnante et je la rends compte en 12 épisodes. Est-ce qu'elle permet de prévoir l'issue de l'élection présidentielle de novembre 2020? Eh bien, on pourrait dire oui, elle le permet, puisque quand il y a une crise économique, c'est le camp au pouvoir qui perd. C'est comme ça que Obama a battu McCain avec la grande crise de 2008 et que Biden va battre Trump. Ou bien je pourrais dire exactement le contraire, mais non, regardez, vous avez des cycles. 1992, 2000, deux mandats démocrates. 2000-2008, deux mandats républicains. 2008-2016, deux mandats démocrates. Et donc maintenant, 2016-2024, deux mandats républicains. Donc, Trump va être réélu. Et en vérité, ce que nous apprennent les élections américaines, c'est qu'elles sont très souvent imprévisibles et que personne ne peut dire qui va gagner la prochaine.
L'incertitude est donc totale. Alors, si vous voulez tout comprendre sur ce qui reste une des élections les plus observées et commentées dans le monde, écoutez donc Mr. President de Mr. Duhamel.
Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. Et ce nouvel horaire, on vous retrouve demain à 9h pour un nouveau journal des médias.